en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci Madame le Président. Madame le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur effectivement de vous présenter une réflexion sur le judaïsme, les rites et l'intégration. Ce sujet qui concerne évidemment le judaïsme, où tant de rites rythment la vie quotidienne, est en fait d'une importance capitale pour l'ensemble de notre société aujourd'hui, et j'ai écrit ces modestes lignes avant même de connaître la teneur de la lettre du président du Sénat. Donc, en effet, ce qui nous fait bâtir une vie commune, ce sont des rites partagés. Les vœux du Nouvel An, les vacances, le repos dominical, les offices en tel ou tel culte, tout ceci donne des références communes qui nous agrègent en un peuple, une communauté humaine. La France est construite sur ce modèle parce qu'il n'y a pas d'autre modèle, que ce soit des rites religieux ou des rites civils. Ce sont ces gestes accomplis par l'ensemble d'une population qui lui donnent du lien. Le judaïsme s'est toujours défini comme la religion de la loi, du rite. Ce dernier est la traduction concrète de la foi en la loi, la confiance en la loi. Le rite devient ainsi la preuve de la foi. Si nous respectons le Shabbat, l'interdiction de travailler le samedi, c'est, comme le disent les 10 commandements, le texte de l'Exode, afin de témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, il a arrêté de créer. Et nous l'imitons. Certes, nous pouvons croire que Dieu a bien suivi cette séquence sans arrêter nous-mêmes de travailler, mais nous ne sommes plus dans le partage d'un rite commun. Et donc nous ne sommes pas dans l'intégration à la vision juive du monde. C'est une autre forme du judaïsme. Je dirais une forme presque chrétienne de vivre le judaïsme. En effet, saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, versets 25 à 29, dit la chose suivante. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif n'est pas celui, c'est Paul toujours qui parle, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et en fait, en allant plus loin, Paul propose que le salut ne passe plus par la loi, mais par la foi, se basant sur un verset du prophète Habakkuk, « Et le juste par la foi vivra ». Comment le judaïsme répond à cette question? Je pourrais vous le préciser dans les questions, si vous voulez bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que le christianisme propose de passer de l'acte au sens de l'acte. Ce qu'oublie Paul, c'est que le rite et le geste portent un sens qui n'est pas le sens, mais notre sens, un sens. Chacun, accomplissant un commandement, un rituel, lui attribue un sens qui lui est propre. On peut ne pas travailler Shabbat, parce que j'ai pris cet exemple, ou manger kasher, parce qu'on le faisait chez nos parents, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on le fait avec des amis. Et peu importe la raison, c'est notre raison et pas la raison. La nôtre, notre raison, le sens qui est le mien. Et chacun accomplit un rite en lui donnant sa propre raison. C'est la combinaison d'ailleurs de toutes les raisons humaines qui est probablement la raison divine. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'un même geste relie un groupe humain qui fait unité à ce moment. Pourquoi respecter ce rite? Et puisque j'ai pris cet exemple de la circoncision qui marque la rupture entre l'acte et le sens, pourquoi par exemple respecter la circoncision? Pourquoi manger kasher? Pourquoi respecter le repos du Shabbat? Je remarque d'ailleurs que Dans les études sociologiques, quand on parle de juifs pratiquants, l'élément qui détermine un juif pratiquant, c'est le respect du Shabbat, c'est-à-dire la capacité d'arrêter de produire un jour. Pourquoi ? Émile Durkheim postule dans les formes élémentaires de la vie religieuse qu'un rite nécessite une tribu pour observer ce rite et un mythe pour donner sens au rite. Mais les rites ont des ennemis. Tous les rites ont toujours eu les mêmes ennemis. Ceux qui voient une obligation utilitaire, par exemple, l'interdiction de manger du porc serait contextuelle. Si la Bible dit « tu ne mangeras pas de porc », c'est uniquement parce que la chair du porc se conservait difficilement dans le désert. Et donc, on dit pourquoi il y a ce rite ? Parce que telle et telle raison. Ce qui est contraire à la foi. Parce qu'on aurait du mal à imaginer que l'Éternel dise « tu ne mangeras pas de porc tant qu'on n'invente pas les réfrigérateurs ». Donc, on voit bien que la parole de Dieu qui est intemporelle ne peut pas se contingenter à une raison du rite. Et l'autre ennemi du rite, c'est celui qui veut obliger à l'accomplissement du rite. Le sortant du champ de la liberté. Or, un rite est un choix libre. Lorsqu'on couche son enfant, en général, on construit des rites de coucher qui sont juste nos moments et qui construisent ce qu'est une famille. Il suffit d'avoir eu des enfants, les avoir mis au lit, pour savoir qu'on construit des petits rituels. Massage, histoire, peu importe. On peut coucher ses enfants de manière unique. Puis on peut les faire, les coucher différemment. On peut les envoyer se coucher sans rien leur dire, on peut les laisser se vautrer devant la télévision jusqu'à ce que le sommeil s'en suive. Mais ce qui fait l'unicité du lien familial, c'est notre façon de ritualiser ce moment, somme toute banal, un moment simple, dont on fait un instant particulier parce qu'on lui donne du sens. Le rite met donc du sens dans quelque chose de normal, de banal. Les façons de manger, de vivre, sont autant de manières de faire société, selon la formule de Maurice Godelier. Mais les rites ont une autre fonction vitale qui est de poser des limites au n'importe quoi. Georges Braque a dit, à propos de l'art, « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». C'était à mon sens la plus belle définition de ce qu'est le judaïsme et de ce que c'est la loi, de manière générale. « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». C'est une façon pour lui de dire que face, par exemple, à l'émotion de la mort, le deuil, on va normer les choses. On ne va pas permettre à chacun d'exprimer son deuil n'importe comment, parfois dans des hurlements, dans des tonsures, dans des entailles faites au corps. On va gérer le deuil en proposant un temps de 7 jours de deuil, puis un mois de deuil, puis un an, puis régulièrement à l'anniversaire du décès, on va mettre des règles pour corriger l'émotion. Et c'est cette définition très juste de ce qu'est le judaïsme qui, avec ses 613 commandements bibliques, propose un modèle religieux dans la vie. Le rite est un cérémonial, et je maintiens, parce que, Madame le Président, vous m'avez fait l'honneur de le rappeler, parce que j'ai eu l'honneur de servir la France sous l'uniforme, qu'il y a aussi un cérémonial républicain et même une liturgie républicaine. Parce qu'il faut vivre ce moment sacré du ravivage de la flamme du soldat inconnu. Ou un instant particulier où le drapeau s'incline devant le président de la République qui symbolise l'ensemble des Français. Il faut vivre ces moments, notamment dans un hommage à des militaires morts au combat, pour toucher là au sacré de l'État, à ces rites qui nous font vivre dans la même société, ces gestes qui donnent une émotion collective, comme nous pouvons le vivre lorsque, par le monde, tous les Juifs jeûnent le jour du grand pardon. Ou quand, dans tel ou tel calendrier religieux, tous les croyants d'une même religion vivent le même instant, la même émotion, la même espérance. C'est à la fois le jeûne et le partage collectif qui font sens et qui fondent le ciment d'une communauté humaine ou d'un pays. Le rituel militaire qui a cette fonction-là dans un régiment, sur un bâtiment ou sur une base aérienne, a la même fonction au niveau de la nation. J'oserais même une comparaison étonnante. Pourquoi, si on a un film sur un support DVD ou support que vous voulez, une cassette, ce que vous voulez, vous avez un film chez vous, vous ne le regardez pas. Il est là, posé sur une étagère, vous ne le regardez pas. Il suffit qu'il soit programmé par une chaîne de télévision. Et ce même film que vous avez disponible, vous le regardez à la télévision uniquement parce qu'il est vu par des millions de téléspectateurs. C'est-à-dire que ce film qui ne vous tente pas particulièrement, vous prenez le temps de le voir pour vivre le moment, même par l'intermédiaire de la télé, par l'intermédiaire de l'écran, pour vivre quelque chose collectivement. C'est un rite. Le rite, donc, y compris celui risible du film du dimanche soir, qui est en général un film benêt, est donc en mesure d'unifier les individus éparses afin d'en faire une société. C'est le rite qui unifie les membres d'une société, qui se définissent eux-mêmes comme membres de cette société. Mais les rites sont des intercesseurs, des marqueurs de moments forts, comme la naissance, la mort, le mariage, la communion, la bar mitzvah dans le judaïsme. Et on peut vivre l'événement sans ces rituels. Mais ils deviennent partagés lorsqu'on les respecte, quand on respecte les règles. Un mariage est un moment dans une vie, un anniversaire de mariage devient un moment formidable quand tous les ans, on revit un rite d'anniversaire. C'est-à-dire qu'on construit un rite sur un événement qui n'est rien d'autre que le rappel d'un autre événement, mais qui devient un événement en lui-même. Le respect du rite devient un événement en lui-même. C'est-à-dire que commémorer la sortie d'Égypte, c'est pas juste dire, il y a 3500 ans, nos ancêtres étaient en Égypte et en sont sortis. C'est dire, je vais moi-même sortir de mon Égypte. Par la façon de revivre le rite, je revis l'histoire. Bossuet affirme que vivre, c'est consommer du temps. Et le judaïsme se construit autour d'une forme de liturgie familiale, un rituel de la table, où à travers les plats, des façons d'organiser les aliments, nous transmettons une mémoire qui ressemble aussi certainement et qui rassemble aussi certainement que les rites les plus partagés. C'est d'ailleurs l'intégration des générations à venir avec les générations passées. Et seuls les rites peuvent permettre cette chose. Lorsque Moïse négocie avec Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple des Hébreux, Pharaon, à un moment, lui dit « Les adultes peuvent partir, mais qu'est-ce que tu vas t'encombrer des vieillards et des enfants ?» Les vieillards marchent lentement, ça va t'embêter dans le désert. Les enfants, il faut s'en occuper, il faut les nourrir, il faut leur donner à boire, c'est compliqué. Laisse les anciens et laisse les enfants ici, partez avec les adultes. Moïse répond « Nous partirons avec nos jeunes et nos anciens. » Une façon d'unifier à la fois le passé et le futur. Et c'est exactement le rite de la table qui donne du sens, qu'on vit au moment de la Pâque juive, par exemple, mais au moment du temps de Pâques dans toutes les religions. C'est ce rite de la table, du partage, qui donne du sens. Et le mot « sens » peut être compris comme la direction, la mise en avant, le mouvement, comme l'interprétation, le sens, l'explication, et aussi comme l'utilisation des cinq sens. Ce que Bossuet disait, vivre, c'est consommer du temps, donner du sens au temps qu'on vit. Le rite devient une expérience totale. Direction, explication, cinq sens. Ainsi, le vin, par exemple, dans toutes les cultures, le vin a un intérêt tout à fait particulier. Le vin, tout comme le pain, et qu'on retrouve dans les rituels des religions qui l'autorisent, avec quelque chose de sacré, parce que le vin comme le pain sont des produits qui n'existent pas à l'état naturel. Il faut chaque fois un travail de l'homme sur un don de Dieu. Et la prière sacramentelle que pose le prêtre ou un juif pratiquant quand il fait la bénédiction, récite la bénédiction sur le vin ou sur le pain, c'est remercier Dieu d'avoir donné un produit premier et de permettre à l'homme d'y ajouter son génie propre. Et c'est sur ces produits, vin et pain, que nous récitons la bénédiction, comme si nous disions le rite simplement de consommer du pain ou du vin ne prend son sens que s'il est reconnaissance. Reconnaissance de ce que Dieu nous permet d'apporter au monde. Nous devenons ainsi des co-gestionnaires du monde. Non pas simplement des consommateurs du monde que Dieu nous met à disposition, mais des co-gestionnaires du monde que Dieu nous donne. Et on voit l'importance aujourd'hui avec les questions d'écologie, lorsqu'on voit que dans la Genèse, par exemple, Dieu demande à Adam de gérer la terre, c'est-à-dire de la travailler et de la conserver. Ce simple fait de lui dire de la travailler et de la conserver, j'oserais presque parler de développement durable bien avant l'heure, où on voit donc que l'homme est le co-gestionnaire de ce qu'est la terre, avant même qu'on s'inquiète de la couche d'ozone. Ce temps, ce rite, ces rites, et en particulier les rites de la table, sont des temps, j'ai parlé tout à l'heure de commémoration, il serait plus juste de parler de remémoration. Le temps de la Pâque, par exemple, je prends cet exemple à dessein, n'est pas un temps où on se souvient que nos ancêtres sont sortis d'Égypte, mais un temps où on se remet en situation d'enfermement, d'oppression. On mange du pain azim, c'est-à-dire du pain qui n'a pas eu le temps de lever, comme les Hébreux qui ont mangé un pain qui n'avait pas eu le temps de lever. Et on goûte même à l'amertume avec des herbes amères. Il faut vivre un jour ce temps du repas de Pâques, la Pâque juive. On mange, consomme des herbes amères pour nous rappeler l'amertume de l'esclavage. On consomme même un genre de, ce qu'on compare au mortier, qui est fait, alors prenez des notes là pour la recette de cuisine, qui est fait avec des dattes, un peu de vin, des pommes écrasées, qui est doux. Parce qu'il y a même une sorte de douceur à l'esclavage, qui annihile, qui anesthésie la capacité de révolte des hommes. Et enfin, la fête, qui s'appelle en hébreu Pessah, qui est la contraction de deux mots, la bouche qui raconte. Le rituel de raconter une histoire. Comme le dit l'Exode, le livre de l'Exode, et tu le raconteras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Cette obligation de ritualiser la façon de raconter une histoire. Non pas simplement pour la vivre, mais pour la transmettre. C'est ce que disait Elie Wiesel, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et depuis 3500 ans, par la permanence de ces rites, le judaïsme ne trahit pas ses expériences. Le sel, qu'on retrouve dans toutes les religions, qui est l'élément le plus simple que Dieu donne à disposition de l'homme. Sans, cette fois-ci, sans aucun apport, contrairement au pain et au vin, le sel, c'est l'élément simple. Et même dans un élément simple, on va mettre du rite. On va tremper le pain dans le sel. Car sur le temple à Jérusalem, il n'y avait pas un sacrifice où il n'y avait pas un peu de sel. Pour rappeler aux hommes que tout l'apport qu'ils peuvent donner au monde ne remplace pas la chose simple que Dieu nous donne. En tout cas, voilà du sens qu'on greffe sur un rituel. Au début de l'année, nous avons une fête qui s'appelle le Nouvel An, Rosh Hashanah en hébreu, dans laquelle nous consommons du miel, des choses douces, pour que l'année soit douce. On pourrait simplement se souhaiter bonne année et souhaiter que l'année soit douce, mais nous consommons des éléments sucrés, de sorte de pouvoir nous mettre dans cette ritualisation et questionner les enfants. Tant le soir de Pâques que le soir du Nouvel An, l'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que les enfants posent la question rituelle « Manishtana, quelle différence ?» Pourquoi, d'habitude, nous consommons du pain levé ou du pain sans levain, et cette fois-ci du pain sans levain exclusivement ? Pourquoi on mange d'habitude des choses sucrées, des choses salées, cette fois-ci que des choses sucrées ? L'histoire devient une ouverture pour comprendre le futur, puisque nous réexpérimentons les situations qu'ont pu vivre les Hébreux à tel ou tel moment. Et puis, je voudrais parler des rites incroyables d'une fête peu connue et très connue à la fois, qui s'appelle en hébreu Pourim, qui est l'équivalent du Mardi Gras, ce qui a donné le Mardi Gras. Pourim, c'est la fête construite après le sauvetage des Hébreux par la reine Esther et Mardoché dans le fameux livre d'Esther. Quelque chose de très contemporain, des méchants veulent tuer les Juifs. Alors, il n'y a pas une fois le nom de Dieu dans le livre du rouleau d'Esther, pas une fois. Donc c'est une façon de lire un texte comme si c'était une histoire avec des données objectives. Voilà. Il y a des tensions, il y a un roi faible, il y a un vizir très fort qui prend le pouvoir, et il y a la reine et Mardoché qui déjouent les complots. Quand les méchants sont éradiqués et que la situation est stable, Esther, la reine Esther, prend des décisions ritualisées. D'abord, elle instaure l'obligation de donner de l'argent aux pauvres. Si on traduisait ça aujourd'hui, on dirait que quand il y a des tensions sociales, il faut relier, il faut renouer du lien social, recréer la possibilité pour les gens de ne plus avoir à s'inquiéter pour leur lendemain. Ensuite, elle oblige, encore une fois, une ritualisation, les uns les autres à s'offrir des nourritures, des gâteaux, des bonbons, des boissons, du vin. C'est important, le vin. Et pourquoi c'est important le vin ? Parce que cette fête, on nous demande dans une ritualisation importante de boire jusqu'à ne plus savoir s'il faut bénir Mardoché ou maudire Mardoché. C'est la fête des masques, comme le Mardi Gras, parce que parfois, les apparences sont trompeuses. Et ceux qui ont le masque de la proximité ne sont pas forcément ceux qui sont proches. Et inversement. Et puis, une fois qu'on s'est offert de la nourriture et du vin en particulier, elle a ritualisé l'obligation de faire un repas partagé. Une façon d'appeler les voisins à venir s'unir à ce repas et en fait à retisser du lien social. Le rite, c'est toujours le partage. Il n'est pas de rite solitaire. Le rite est toujours quelque chose qui partage et qui fait lien. Et ces mesures sociales, donner aux pauvres, c'est changer des cadeaux à manger, le repas partagé, c'est peut-être ce qui manque le plus à notre société. Et plus encore, dans un monde uniformisé où l'intégration à un groupe humain devient si difficile par défaut de groupe humain. En effet, tout rite particulier semble devenir aujourd'hui une insulte à cette obsession d'uniformisation. La mondialisation fait que les rites alimentaires sont les mêmes partout, que la pizza n'est plus l'apanage des Italiens, que le kebab n'est plus l'apanage des Turcs, et que le couscous n'est plus l'apanage des pays nord-africains, et qu'on retrouve les mêmes nourritures partout dans le monde, sans segmentation, sans différenciation. Cette uniformisation n'est pas ce que Dieu demande. La façon que le judaïsme a de vivre, ou que la religion juive a de vivre l'uniformisation, c'est un échec de l'humanité. On a un exemple frappant avec le passage de la tour de Babel dans la Genèse chapitre 11. Et ce fut sur la terre une seule langue et les mêmes paroles. Et les commentaires demandent si c'est la même langue, pourquoi les mêmes paroles, pourquoi répéter. Parce que, disent les commentateurs, il y avait une seule façon d'utiliser la langue. On dirait aujourd'hui que c'était la pensée unique. L'impossibilité de penser autrement. Qu'est-ce qui se passe ? Les hommes pensent tous la même façon. Ils sont donc les mêmes, des clones. Et puisqu'ils sont les mêmes, ils vont s'en prendre à celui qui est radicalement différent d'eux, c'est-à-dire Dieu. Ils construisent une tour pour aller combattre contre lui. Dieu se contente de mélanger leurs langues et de les disperser à la surface de la terre pour les forcer à retrouver la possibilité de faire du lien et d'aller dominer la différence de langue et la différence de lieu géographique pour former une humanité qui serait non pas uniforme, mais unitaire. Et l'unité ne se fonde que sur la différence. C'est vrai dans les couples, c'est vrai dans la vie, c'est vrai dans les sociétés. L'unité, c'est l'inverse de l'uniformité, en réalité. Mais on peut noter de toute manière, en passant, qu'on peut construire un axiome très intéressant, surtout aujourd'hui, quand on compare avec la sanction que Dieu a opposée à la génération du déluge. Les hommes s'entretuaient, probablement au nom de Dieu. Ma façon de servir Dieu est la bonne, la tienne n'est pas bonne. Et ils s'entretuaient. Dieu a éradiqué cette humanité avec le déluge. En revanche, quand les hommes s'en prennent à Dieu lui-même, ils se contentent de mélanger leurs langues et les disperser. Donc on peut construire l'axiome suivant. Dieu préfère qu'on soit unis contre lui plutôt que désunis en son nom. Ce qui appelle beaucoup à méditer en ces temps où on semble oublier cette façon de construire une humanité. Et notre société aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de rites pour proposer l'intégration. Alors, est-ce que c'est l'intégration à la République dont parlait le président du Sénat, ou l'intégration à une communauté humaine ? Mais la religion, le mot religion vient du mot religere, qui veut dire relier. L'appel des religions est un appel à produire du sens entre les croyants. Si par bonheur ça peut produire du sens et du lien avec Dieu, c'est très bien. Mais le but, c'est de produire du sens et du lien entre les croyants. En rentrant dans la grande synagogue de Paris, rue de la Victoire, j'ai toujours été frappé d'une une chose étonnante. L'architecte a mis, lorsqu'on rentre dans la synagogue, on voit en haut, au-dessus, un verset de la Bible qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tous tes moyens, de toute ta possibilité, de toute ta foi. » Tu aimeras l'Éternel. Probablement, quand on rentre dans une synagogue, on cherche, ou dans un lieu de culte, on cherche à rencontrer Dieu, on cherche une aspiration à la transcendance, à s'élever. Mais quand on sort de la synagogue, rue de la Victoire, venez la visiter, on voit un verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme si on comprenait que vivre un moment dans un lieu de culte et chercher Dieu, c'est en arriver à la conclusion que les rites qu'on y produit doivent nous permettre de retrouver notre prochain. Et c'est la fonction des rites. Le rite produit de l'intégration parce qu'il produit du sens au lien que je veux partager avec l'autre, avec celui que je rencontre. Et c'est peut-être la plus belle des réponses à la question que posait Caïn. Lorsque Dieu lui demande où est ton frère, Caïn répond, je ne suis pas le gardien de mon frère. Entendu, j'ai rien à voir avec lui. Je n'ai pas de rite partagé, je n'ai rien à partager avec lui. Je n'ai même plus partagé la parole et je l'ai tué. Et bien plus tard dans la Genèse, Joseph, envoyé par son père Jacob à la recherche de ses frères, dit à un homme qu'il rencontre dans les champs, « Ce sont mes frères que je cherche. » Et c'est peut-être le sens même du rite. Joseph est l'homme des rêves et l'homme des rites expliqués. Des rêves transformés en rites qu'il explique. C'est peut-être le sens même d'une société. Et c'est ce que Dieu cherche à faire. Dieu nous pousse à rechercher l'unité et pas l'uniformité. Et pour ce faire, il nous faut réinventer des rites républicains, des rites de société, qui nous intègrent dans la vie et dans l'espérance commune de nos contemporains. Voici les quelques mots que je voulais partager avec vous avant d'entamer un dialogue que j'espère fécond.